RFI, grand reportage, Laurence Adoux.
Les fêtes sont pour certains l'occasion de déguster du caviar. Baptisé l'or noir, il reste un mets d'exception. Malgré son prix, la demande est croissante. De plus en plus de pays se sont mis à produire ces perles brunes. Sur les 150 tonnes de production mondiale de caviar, la France en produit environ 23 tonnes par an. Soit 20 millions de chiffres d'affaires et une centaine d'emplois. La filière française exporte 50% de sa production. Seconde, l'Italie, qui a longtemps été le premier producteur mondial de caviar, elle est aujourd'hui reléguée au troisième rang. La Chine est devenue leader sur ce marché. Le caviar français sur la troisième marche du podium. Grand reportage signé Patricia Lecomte. Patricia que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage gourmand.
C'est les poissons qui ont été mis de côté pour la production de cette semaine.
Grand, là.
Voilà, là vous avez quelques animaux qui n'ont pas encore idée de leur prochain jour, mais qui vont être transformés, rentrés au laboratoire demain ou après-demain.
Ça fait combien? Ça fait un mètre à peu près de long?
Oui, les plus grands même dépassent le mètre. On a des poissons là qui doivent être d'un poids moyen voisin de 5,5 kg, quelque chose comme ça. Donc avec un rendement caviar sur le sibérien qui est d'environ 10%. Donc ce sont des poissons qui vont donner en moyenne 500 à 600 grammes par animal. Nous sommes au cœur de la forêt des Landes, même si le département c'est celui de la Gironde, et la pisciculture a été installée au cœur de cette forêt où un certain nombre d'arbres ont été coupés et les bassins donc creusés. Nous utilisons l'eau chaude présente naturellement dans le sous-sol de cette partie du département pour réchauffer l'eau de nos bassins en période hivernale, et l'intérêt de ce gain de calories, c'est précisément sur un cycle très long qui est celui de l'esturgeon, environ une dizaine d'années, on arrive assez nettement à désaisonnaliser le cycle, c'est-à-dire pratiquement à produire du caviar d'un bout de l'année à l'autre.
Nous sommes à l'Esturgeonnière, sur la commune du Teche, au bord du bassin d'Arcachon, chez Michel Berthomier. Dans la clairière, plus de 5000 m² de bassin en béton, d'une profondeur d'un mètre, parcouru par une station de traitement d'eau de 100 mètres de long, dans lesquelles s'ébattent 120 000 poissons. L'Aquitaine est le berceau de l'esturgeon français. Au début du XXe siècle, il était pêché et consommé pour sa chair et non pour ses œufs. Une légende raconte que c'est une princesse russe en villégiature sur le bassin d'Arcachon en 1916 qui est à l'origine du caviar d'Aquitaine. Voyant les pêcheurs donner les œufs d'esturgeon à leurs poules, elle s'empressa de leur dire combien le mets était précieux au point qu'en Russie c'était devenu de l'or noir. Dès lors, le caviar d'Aquitaine gagna sa renommée et fit leur richesse. Mais son exploitation intensive le conduisit à sa perte et en 1982, il était déclaré espèce protégée. Pour pallier à sa disparition, les producteurs locaux se sont convertis à la pisciculture. C'est ici, en Gironde, qu'a débuté il y a 25 ans l'aventure de l'élevage d'esturgeons en bassin. Les aquaculteurs ont importé une nouvelle espèce, la Cipenser bairi, originaire de Sibérie.
Sous nos yeux, on a typiquement un bassin qui a reçu les poissons de la génération 2014, qui sont nés donc ici à l'écloserie du Teche, et qui, si tout va bien, commenceront à donner pour les tout premiers du caviar en 2022.
L'Esturgeonnière est l'une des plus anciennes fermes piscicoles. Ici, on produit 3,5 tonnes de caviar par an. C'est la seule en Aquitaine à posséder une écloserie où naissent environ 35 000 poissons par an. Michel Berthomier.
Les poissons donc prennent naissance ici à partir des esturgeons mâles et femelles géniteurs sélectionnés. C'est une opération qui se déroule à la saison au printemps. À la suite de la naissance de ces poissons, on va rapidement donc les aiguiller vers nos bassins de grossissement où au départ mâles et femelles vont croître pendant 2 à 3 années. Avant que l'on puisse déterminer donc par échographie, qui est une technique d'imagerie, qui est mâle et qui est femelle, les mâles étant destinés à une carrière plus courte, les mâles sont utilisés pour la valorisation de leur chair. Et donc seules les femelles vont poursuivre l'aventure jusqu'à 7 ans pour les premières et 10 à 11 ans, 12 ans pour les dernières. Époque à partir de laquelle on va commencer donc à diagnostiquer l'état d'évolution de la poche ovarienne et de savoir si effectivement on est en présence ou non d'un produit qui va pouvoir satisfaire à la qualité du caviar.
Après la maternité, les poissons vont durant plusieurs années évoluer dans différents bassins.
Les premiers qui sont sous nos yeux sont des bassins dits d'alvinage, qui sont destinés à recevoir les poissons à partir de la sortie de l'écloserie, c'est-à-dire aux alentours de 150 grammes jusqu'à 1 kg, 1,5 kg. Puis ensuite, donc, on a une deuxième catégorie de bassins qui sont des bassins plus grands qui font 50 mètres de long. La logique d'une ferme telle que celle-ci, c'est l'évolution des générations dans ces différents bassins, et plus on va s'acheminer vers l'extrémité de la ferme, plus on va se retrouver en présence de générations âgées et donc de poissons en capacité de produire du caviar.
Traditionnellement, le caviar provenait des sturgeons de la mer Caspienne. Mais la pollution et la surexploitation ont conduit en 2007 la CITES, organisation internationale qui délivre les permis d'importation ou d'exportation, à interdire totalement la pêche des sturgeons sauvages. Aujourd'hui, seul le caviar issu d'espèces d'élevage est autorisé à la vente en Europe. La qualité d'un bon caviar passe naturellement par les conditions d'élevage et plus particulièrement par la qualité de la nourriture et de l'eau. À l'Esturgeonnière, Michel Berthomier a réalisé d'importants investissements.
Ce que l'on voit au loin, ce sont des stations de traitement d'eau. Cette eau, elle rentre dans la pisciculture, elle en ressort, ça veut dire qu'il n'y a pas de prélèvement qui est fait dans l'environnement. Par contre, on a mis un point d'honneur à restituer une eau qui soit au moins de la qualité de celle qu'on y a prélevée.
De quoi vous les nourrissez et est-ce que là aussi vous apportez des garanties ?
La filière aquitaine s'est engagée à ne pas ajouter de produits ou de sous-produits d'animaux terrestres, en clair de farine de viande dans l'alimentation. Nous sommes les seuls en France et dans le sud-ouest à pouvoir revendiquer cette spécificité.
La phase de récolte et d'élaboration du produit en laboratoire est déterminante pour la reconnaissance d'un bon produit et sa paye. Michel Berthomier fournit les grandes maisons du caviar.
La maison Petrossian, c'est une des maisons les plus sûres en termes d'origine, d'image et de distribution. Ce sont des gens qui sont historiquement pour les sturgeonnières des clients très réguliers et qui évidemment nous font connaître tous leurs desiderata et le sentiment qu'ils peuvent avoir à la dégustation de nos produits.
Aujourd'hui, d'autres régions développent la pisciculture des sturgeons. En Sologne, dans le centre de la France, à Saint-Viâtre, Vincent et Patricia Encar possèdent une ferme piscicole. Ici, pas de bassin en béton, mais de grands étangs dans lesquels grandissent les esturgeons. La production du caviar de Sologne est exclusivement réservée à la maison nordique. Il faut 8 ans avant de récolter les œufs. À maturité, une femelle peut atteindre 1 mètre de long pour 7 kilos. Elle produit environ 10% de son poids en caviar. À l'entrée du hangar, un beau spécimen ne sait pas encore qu'il vit ses derniers instants.
On va la regarder, donc elle est au fond d'un bac. Ah, c'est grand quand même.
Celle-ci fait 8 kilos et effectivement, elle doit bien faire 1 mètre 20 de long. Là.
Donc là, hop, vous la sortez de l'eau. Ah oui, elle se laisse pas faire. Hein.
Là, elle est morte parce qu'il a tapé sur la boîte crânienne.
Bon, et l'étape d'après, alors ? Là, on l'accroche à crochet par la queue.
Voilà.
Donc la tête en bas.
Pour laisser s'écouler le sang. Hein. Si vous voulez qu'on regarde les étapes suivantes, il faut qu'on aille s'équiper.
Bien, alors donc, on va mettre le bonnet, les bottes.
La charlotte, les bottes, etc.
Allez, on y va. Stéphane, c'est vous qui faites l'opération la plus délicate ?
Oui, effectivement. Donc, ça consiste à prélever la rogue et à la donner à mes collègues dans le labo à côté.
Alors, la rogue, c'est la poche qui contient les œufs ?
Voilà, c'est ça.
Vous lui fendez l'abdomen sur toute la longueur ?
Voilà, on va faire une incision assez précise quand même. Voilà, donc là, on peut s'apercevoir qu'il y a les deux rogues.
On voit les œufs noirs.
Là, on voit que la rogue est bien à maturité. Parce qu'il y a très très peu de graisse dedans. Normalement, c'est assez prometteur quand c'est comme ça. Voilà, c'est par de l'autre côté, il y a un sas.
Bon, bah alors on suit les œufs. Merci, monsieur. C'était gros, là, à votre avis. Il y en a pour combien? Au moins un kilo, non?
Là, je pense qu'il y a plus d'un kilo. Là, on était plutôt proche d'un kilo cinq. Donc, c'est un beau rendement. Là, on retrouve Anthony qui s'occupe de tamiser les œufs. Hein.
Il y a un tamis et sur la grille du tamis, vous passez la poche, c'est ça?
Ça, oui.
Il ne faut pas écraser les œufs, j'imagine.
Bien sûr, ouais, c'est quand même assez fragile, il faut être assez délicat.
Le grain tombe au fond du tamis.
C'est bien ça, oui.
C'est le stade du rinçage. Hein. Donc là, c'est Jérôme qui s'en occupe. Ouais. Trois rinçages successifs, généralement, sont suffisants. Et après, vous allez avoir le grain tout seul qui va apparaître, bien égoutté. Ensuite, on le pèse. Et là, c'est Patricia qui s'occupe du salage.
C'est à ce stade-là qu'il y a la recette qu'on garde secret ?
Oui, oui. Tout est secret, là. Il n'y a ni le poids, ni l'origine, ni rien. Mais bon, après, c'est terminé. Il va passer directement en boîte.
Le sel est un exhausteur de goût et va faire ressortir toutes les tonalités qu'il y a dans le caviar.
Ça, c'est du sel, oui. Et ça, c'est du sel de bord. Ça, c'est ce qui a toujours été utilisé depuis qu'on fabrique du caviar pour la conservation. Moi, j'ai mélangé les deux.
Et à la main, un peu comme on met de la farine sur une pâte à tarte, vous mélangez, vous tournez.
Oui, oui. Ça dure pas très longtemps comme opération. Et là, vous voyez, ça change déjà.
C'est plus liquide, non ?
Plus liquide, oui. Puis après, on les remet à l'égouttage de nouveau.
Et c'est après cette étape, après l'égouttage, que vous le mettrez dans des boîtes qui vont partir ensuite pour le conditionnement définitif ?
Voilà.
Le caviar va ensuite être acheminé par camion réfrigéré en région parisienne dans les entrepôts de la Maison Nordique. Il sera mis au repos 15 jours, puis sera ensuite conditionné et expédié. Kayan Eslamdoust, fondateur de la Maison Nordique, producteur, affineur, distributeur du caviar de Sologne, veille au grain. Simone, sa précieuse collaboratrice, contrôle et sélectionne le caviar.
Chaque client désire avoir un caviar particulier. On sélectionne par rapport à chaque client. Monsieur Robuchon désire avoir un caviar noir. Au contraire, le Bristol préfère avoir du caviar clair.
Donc là, ici, on rentre dans une chambre froide. Oui, alors là, effectivement, on voit des étiquettes avec des grands noms d'établissements parisiens et puis certains qui partent à l'international.
On a comme destination Singapour, Dubaï, les Maldives, Tokyo. Ils nous passent la commande la nuit et nous, on travaille le matin dès qu'on a la commande.
Donc là, on change d'endroit, on a quitté la chambre froide.
Pour aller dans le labo, nous conditionnons toutes nos petites boîtes. Alors ça, voyez-vous, c'est une boîte d'origine.
C'est la boîte bleue, elle est en plastique, ronde, comme une boîte à chapeau d'ailleurs, tenue par un élastique.
Là, je vais commencer par repousser l'élastique afin de dégager le couvercle. J'arrive au moment crucial où ça va être
l'ouverture.
La découverte du caviar.
Ah ouais, magnifique.
Voilà, il est ce qu'on appelle chez nous mort doré. Des nuances de gris sombre à gris plus clair.
Donc là, il faut impérativement le goûter.
Oui, parce que c'est comme ça qu'on détermine pour quel client nous allons le conditionner. Alors, vous voyez déjà que le grain se détache bien,
ouais.
Ça colle pas.
Alors là, on vient d'ouvrir une deuxième boîte. Voilà, la couleur n'est pas tout à fait la même, voilà. Elle est plus claire. Hein.
C'est plus clair. Alors ça, c'est plutôt le produit qu'on pourrait sélectionner pour le Bristol. Ça, ça lui convient parfaitement.
Ce caviar-là, on peut le consommer jusqu'à quand ?
Chez nous, c'est maximum 2 mois et demi. Parce que le caviar, c'est un produit qui vieillit mal.
Maintenant, on va aller voir le chef du Bristol. C'est un rendez-vous important pour vous à chaque fois que vous rencontrez un grand chef ?
Monsieur Fréchon, comme Monsieur Robuchon, Monsieur Guy Savoie font confiance depuis des années. Et c'est vrai que pour nous, c'est primordial.
Il est midi et demi dans les cuisines du Bristol, la brigade s'affaire. Dans ce restaurant 3 étoiles, le caviar figure sur la carte toute l'année. On y écoule 100 kilos par an. Le renommé chef Éric Fréchaud va goûter les différents caviars sur un coin de console.
Comment on peut pas dire non de toute façon quand il faut déguster du caviar français de Sologne.
C'est quoi pour vous qui est important, vous qui êtes un grand chef au niveau du palais, à quoi on reconnaît un bon caviar ?
Bah, y a le grain bien sûr, il y a la couleur, il y a comment il va rouler à l'intérieur de la boîte. Puis le goût quand même, c'est quand même l'essentiel, suivant ce que l'on veut en faire aussi. Si on veut le manger nature, moi j'aime bien plutôt noisette. Il est pour être accommodé avec un poisson, je préférais qu'il soit un peu plus iodé.
Alors là on voit 3 grandes boîtes hein, d'1,8 kg, les fameuses boîtes qu'on a vues tout à l'heure au laboratoire.
Là on voit déjà les couleurs qui sont différentes hein, déjà, avec des grosseurs de grains aussi différentes.
Vous faites un puits au milieu.
Moi j'aime bien goûter les milieux de boîte en fait.
D'accord.
Là on voit qu'on a affaire à un caviar très très frais. Il est assez salé, assez iodé.
Est-ce que c'est bien ça ?
Oui oui bien sûr. Pour moi il manque un petit peu de ce côté noisette que j'aime bien. Un peu gras, à mon goût aussi. Donc je vais regoûter une autre boîte. Là on sent bien le grain du caviar qui roule sous la langue. Ça c'est du grand caviar. Là on va l'accommoder avec un œuf cuit par le froid. Donc il va servir un petit peu de texture un peu beurrée et qui va accompagner le caviar merveilleusement bien juste avec une crème acidulée. Enfin on a essayé beaucoup de caviar. Mais le Sologne, c'est vraiment celui où il est le plus régulier à l'année. Et je dirais même qu'il est presque meilleur que le sauvage parce qu'il y a une régularité qu'on n'arrive pas à retrouver dans le sauvage où ils n'ont que 2 pêches dans l'année. Donc au début qu'on goûte la pêche, donc là il est très bon. Les premiers mois il est excellent, le deuxième mois il est encore bon. Et puis après, plus ça va, plus il va se dégrader dans la boîte. Et c'est là toute la différence.
La demande mondiale de caviar est en forte croissance. La production va donc augmenter avec le risque de voir le prix de cet or noir baisser. Pour Kayan Eslamdoust, c'est une évidence, mais pas forcément un risque.
Il y aura du caviar du monde entier qui vont arriver sur le marché. Des pays exotiques comme l'Arabie Saoudite, comme Israël, d'autres pays qui produisent aujourd'hui du caviar. D'ici quelques années, on aura à peu près 90% du caviar de qualité moyen. Et vous aurez toujours 10% de caviar d'une qualité exceptionnelle. Le prix de caviar baissera forcément. Mais pour moi, je pense que si vous avez la qualité, vous aurez toujours une clientèle ciblée qui voudra déguster le bon produit. Pour moi, il faut que ça reste quand même un produit noble.
Mais vous savez, le meilleur moment pour nous, c'est quand on commence la journée, qu'on ouvre toutes ces boîtes et qu'on doit les goûter.
Mais votre petit déjeuner est plutôt pas mal.
C'est tout à fait ça.
Le caviar français sur la troisième marche du podium, un grand reportage de Patricia Lecomte, réalisation Eva Moschensky.
Patricia Lecomte, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors le caviar d'Aquitaine était naturellement présent en Gironde, ce qui n'était pas le cas en Sologne. Comment l'histoire a commencé?
Eh bien Laurent, c'est le CEMAGREF qui est à l'origine du développement de l'élevage d'esturgeons. Cet institut français de recherche a étudié un plan de sauvetage pour sauver l'esturgeon atlantique qui était très menacé. Les chercheurs de cet organisme ont alors été chargés de mettre au point la reproduction du sturio. Pour ce faire, ils se sont d'abord fait la main sur les Spencer Baeri, originaires de Sibérie, dont les Russes connaissaient déjà toutes les étapes de reproduction artificielle, ainsi que les premiers stades d'élevage. Au bout de 10 ans, nos chercheurs ont totalement maîtrisé les différentes étapes d'élevage du Baeri et au début des années 90, ils l'ont proposé à des éleveurs qui se sont rapidement lancés dans cette nouvelle activité. Vincent et Patricia Hencar, que vous avez entendu dans le reportage, ont fait partie de cette vague, mais quand ils ont démarré, ils étaient loin d'imaginer qu'ils auraient un cheptel aussi important d'esturgeons et qu'ils mèneraient le cycle jusqu'à son terme et produiraient du caviar.
Et ces esturgeons en question se sont visiblement bien adaptés.
Et oui Laurent, car il y a deux grandes espèces d'esturgeons. Il y a celles qui sont purement continentales et d'autres qui sont migratrices. Les espèces qui sont migratrices viennent se reproduire en eau douce et les premiers stades de leur vie se déroulent en eau douce. Donc, on peut acclimater des espèces qui sont normalement migratrices en les retenant en eau douce ou alors élever carrément une espèce d'eau douce. L'espèce que l'on trouve en France est la Spencer Baeri, originaire de Sibérie, région beaucoup plus continentale que la France, mais néanmoins, au niveau des types de sol et des minima de température, on retrouve les conditions qui lui correspondent. D'ailleurs, il a facilement prospéré dans nos régions. Aujourd'hui, les éleveurs français essayent d'introduire le beluga, dont ses œufs sont très prisés.
Oui.
Et oui, et on commence également à trouver du caviar français d'Ossiètre.
Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui se lancent justement dans l'élevage des esturgeons?
Eh bien, au risque de vous surprendre, Laurent, de plus en plus de pays se lancent dans la production de caviar. Les États-Unis, la Bulgarie, plus étonnant l'Uruguay, qui est le 9e exportateur mondial de caviar.
Alors, on peut quand même parler de prix, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit aussi.
Et oui, Laurent, vous savez, quand on parle de produits d'exception, on parle aussi d'un prix d'exception. En ce qui concerne les producteurs français, les prix se situent dans une fourchette allant de 2200 à 3000 euros le kilo.
C'est quand même très cher.
Eh oui, mais c'est pourquoi vous le trouverez conditionné dans de petites quantités. Vous pouvez toujours, Laurent, vous faire plaisir en achetant une boîte de 10 grammes. Et dans ce cas-là, vous ne débourserez qu'une vingtaine d'euros. Et là, attention, il faudra le déguster très lentement si vous voulez faire durer le plaisir.
Vous me connaissez bien. Ce sera le mot de la fin. F-A-I-M, du coup.
Oui, absolument.
Grand reportage à écouter sur RFI.fr. Patricia Lecomte, merci beaucoup. Puis puisque je vous tiens, bonne fête de fin d'année.
À vous aussi, avec Laurent, à tous nos auditeurs. Bonne fête de fin d'année.
Avec un peu de caviar. Allez.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose...